Vous l'avez lu?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour.
Je peux en prendre combien?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez?
Vous pouvez me le prolonger?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors?
Et c'est le premier Zeste de Culture de l'année 2023. Et je suis à la médiathèque de Saint-Sevé. On enregistre maintenant dans les médiathèques pour cette nouvelle formule de Zeste de Culture. Je suis avec Carmela, Sandrine et Patricia. Bonjour.
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 Alors Carmela, vous vouliez nous dire un petit mot?
Oui. Déjà, je voulais souhaiter une très bonne année à tous les lecteurs des médiathèques Chalosse-Tursan. Voilà, toutes les équipes se joignent à moi et on vous souhaite que du meilleur.
Et oui, c'est la période des vœux. Alors, mais là, on est aussi là pour présenter un roman, un film et un jeu. De quoi vous occuper ces longues soirées d'hiver. Et on commence par un roman avec vous, Carmela. Le roman s'appelle « On était des loups » et l'auteur, c'est Sandrine Colette. Ça parle de quoi, « On était des loups » ?
Alors, le petit résumé. Pour fuir une vie de famille effroyable, Liam s'installe dans les montagnes, à 4 heures de cheval de chez Henry et 1 heure d'avion de la ville. Il n'a que 20 ans et il vit en autarcie, de la chasse et de la vente des peaux de bêtes qu'il tue. Et lors d'un rare ravitaillement à la ville, il rencontre Ava, éperdument amoureuse. Elle le suit dans cet endroit isolé et coupé du monde. Quelques années plus tard, elle arrive à le convaincre d'avoir un enfant. Et c'est un garçon, et il s'appelle Haru. Mais en rentrant d'une semaine de chasse, Liam se rend compte immédiatement que quelque chose cloche. Haru n'est pas là pour l'accueillir, et il aperçoit sa femme, par terre et immobile. La vie de Liam va alors basculer.
Comment elle va basculer, ça, on le saura plus tard, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Mais je vais vous donner quelques éléments quand même.
Alors la critique de ce livre, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors, il n'y a pas à dire. Hein. Moi, Sandrine Colette, je suis fan et elle sait y faire pour plonger d'emblée le lecteur dans la peau de son personnage principal et le mettre ainsi en difficulté dans la gestion de ses sentiments. Le récit repose sur 200 pages dans lesquelles le malaise est immense. La plume est parfaite. L'autrice va à l'essentiel. Les mots choisis sont crus, vrais et font réagir. Donc dans ce livre, on est confronté à la dureté d'un père envers son fils. Cet homme, qui ne désirait pas d'enfant, a des pensées inavouables et monstrueuses. Pour lui, un enfant, ça sert à rien, surtout dans les montagnes. Lui a simplement besoin de se retrouver seul pour traquer, épier les loups. Il faut attendre une scène terrible, qu'on ne dévoilera pas ici, pour que Liam réagisse enfin. Qu'il se sente progressivement père et commence à éprouver des sentiments pour son fils. Un long chemin semé d'embûches que Liam et Haru vont devoir parcourir ensemble, à dos de cheval, dans un décor austère. Le lecteur est alors très vite pris au piège entre le petit Haru, âgé de 5 ans et demi, que l'on a envie de protéger, mais son père bourru, à qui on a finalement envie de donner une nouvelle chance. « On était des loups » est un titre qui résume parfaitement la façon dont vivent Liam, Ava et Haru dans ces montagnes. Ce récit passionnant se lit d'une traite. C'est une vraie réussite et ne laissera pas le lecteur indemne. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver dans la médiathèque de Jaune.
D'accord. Et il a eu même quelques prix, ce livre-là, ou c'est l'auteur?
Alors c'est ce livre, « On était des loups », a reçu effectivement dès sa sortie le prix Renaudot des lycéens 2022 et le prix Jean Giono 2022.
Donc moi je propose qu'on écoute tout de suite pour illustrer « On était des loups », Camille avec les loups.
Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas.
Et on passe tout de suite à Sandrine de la médiathèque d'Ajetmo qui va nous présenter un film qui s'appelle « À l'école du bout du monde » dont je te laisse prononcer l'auteur.
Donc le réalisateur, c'est Pao Shaoning Dorji, si je le prononce bien.
Bravo. Et du coup, il est de quelle origine ce réalisateur ?
Il est du Bhoutan.
Du Bhoutan, d'accord. Donc est-ce que ça nous parle du Bhoutan, le film, ou pas du tout ?
Tout à fait.
Tout à fait ? Bon, bah, je te laisse nous dire de tout ça.
Donc aujourd'hui, je vous présente le film L'école du bout du monde de Pao Shaoning Dorji, dont c'est le premier long métrage. C'est un film que nous pourrions qualifier de familial, puisqu'il peut s'adresser aux adultes comme aux enfants, et je dirais aux enfants à partir de 10 ans ou 12 ans. Ce film est récent, mais il est sorti en Angleterre en 2019, et dans les salles françaises tout juste au mois de mai 2022, et cet automne donc en DVD. Alors si je vous le présente, c'est parce qu'il m'a tout d'abord interpellée. Et effectivement, donc, c'est un film qui sur le Bhoutan, et ça, c'est pas très courant. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé grand-chose. Et puis, c'est un film qui m'a séduit. C'est le genre de film sobre, mais authentique. Il n'y a pas d'excès, il y a juste l'essentiel. Et c'est un film que l'on regarde avec plaisir, qui fait du bien et qui vous accompagne même après la fin du film. Alors, l'histoire est donc très simple. Eugène Dorji, qui a une vingtaine d'années, est orphelin. Il a été élevé par sa grand-mère, avec laquelle il habite à Thimphu, si je prononce bien, la capitale du Bhoutan. C'est un jeune enseignant qui est lié par ses fonctions à l'État du Bhoutan par un contrat de 5 ans pour effectuer donc son service national. Mais Eugène aspire à un autre avenir. Lui, son rêve, c'est d'aller tenter sa chance comme chanteur en Australie. Alors, quand le ministère le convoque, il est loin d'apprécier la demande de rupture de contrat et l'attitude désinvolte du jeune enseignant qui néglige les valeurs de bienveillance du pays. Et tout ce qu'il en obtient, c'est d'être nommé professeur à Lunana, dans l'école la plus reculée du monde. Et Lunana existe vraiment. Lunana est située à plus de 4500 mètres d'altitude, soit à plus d'une semaine d'ascension en montagne, depuis la dernière route accessible en voiture. Alors, pour vous décrire Lunana, il s'agit d'un tout petit hameau situé le long des glaciers de l'Himalaya, donc dans les montagnes les plus hautes du monde. Ce petit village ne compte qu'une cinquantaine d'habitants, dont la plupart n'ont jamais vu le monde extérieur. Le village Lunana signifie littéralement « la vallée sombre », car Lunana est si loin et si distante que la lumière ne l'atteint même pas. Le village est si isolé qu'aujourd'hui encore, il ne bénéficie pas des commodités de la vie moderne. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de réseau. Alors je vous laisse tout juste imaginer la réaction de notre jeune instituteur en apprenant sa mutation. Et sans surprise, ce périple sera pour lui un voyage initiatique qui le transformera profondément. Alors, quand le film débute, mes idées reçues sur le Bhoutan tombent. Pour moi, le Bhoutan était le pays du bonheur, de la bienveillance, du respect, du fait du bonheur national brut. Alors, pour expliquer un peu tout ça, le Bhoutan est un petit pays, pas plus grand que la Suisse. Il est enclavé entre le Tibet et la Chine. Et dans les années 70, le roi de l'époque a souhaité privilégier le bonheur des citoyens, leur qualité de vie, plutôt que de favoriser la croissance économique. Alors, il a mis en place le bonheur national brut, par opposition au produit national brut, qui lui est l'indicateur de croissance, enfin de richesse économique d'un pays. Donc c'était donc pour moi un pays en marge du reste du monde et de ses excès. Or, dès le début, nous constatons la vie ordinaire d'Hygiène, comparable à celle d'un jeune d'aujourd'hui chez nous, à l'occidental, casque sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran de téléphone. On remarque dès le début, ses aspirations à aller chercher l'herbe plus verte ailleurs, sa négligence quand sa grand-mère est obligée de le réveiller pour honorer ses rendez-vous, il y a quand même une vingtaine d'années. Eugène nous apparaît donc comme irrespectueux vis-à-vis de son entourage, de ses engagements, je dirais même presque antipathique, à se plaindre, à râler continuellement comme un enfant gâté, lors de notamment de son ascension montagnarde. Alors le contraste est vraiment fort entre lui et sa vie de citadin, et la douceur, la gentillesse et la sobriété dans laquelle vivent les habitants de Lunana. J'étais donc bien loin de mes clichés d'Eldorado de paix, où les mots ne seraient pas plus hauts les uns que les autres et où la vie serait harmonieuse. Néanmoins, au fur et à mesure de son ascension encadrée par deux habitants du village de Lunana, Eugène va petit à petit s'élever à cette spiritualité. Au cours de l'ascension, l'altitude parcourue est d'ailleurs incrustée dans le film, peut-être pour mettre comme en parallèle à chaque étape franchie l'évolution du jeune instituteur qui, au fur et à mesure de cette ascension, évolue. Et faute de batterie, parce qu'il a donc son casque sur les oreilles, faute de batterie, il finit par tomber le casque, par lever le nez et observer le paysage qui l'entoure, ce paysage nouveau, et enfin s'ouvrir aux habitants de Lunana. Au fur et à mesure donc, où il gravit les mètres, il perd ses apparats de la vie moderne et il finit par revenir à l'essentiel et à une certaine pureté d'esprit. Et c'est à partir de ce moment qu'il pourra cheminer pour trouver le sens de sa vie, le sens à la vie. Et dans cette quête, la voie VOIE au sens donc du parcours et la voie VOIX au sens du chant de la musique seront entremêlées et elle sera la ligne conductrice jusqu'à la fin du film. Donc ce film a été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international et il n'a pas moins de 9 autres nominations, 18 autres récompenses et pas très loin de chez nous, donc au Festival du film international de Saint-Jean-de-Luz, il a été donc récompensé en 2022. Donc des nominations et des récompenses qui sont bien méritées, je trouve, pour la qualité du film d'une part, mais aussi pour souligner et reconnaître le travail de tournage. En effet, pour réaliser ce film, le réalisateur Pao Chongling Dorji et son équipe ont dû, tout comme le protagoniste, réaliser en 8 jours l'ascension des montagnes à pied, avec des ânes, des mules pour transporter le matériel. Ils ont également dû faire face aux conditions climatiques très difficiles dans cette partie du pays. Ils sont tributaires du soleil pour recharger les capteurs solaires nécessaires au tournage. Donc ce film est authentique jusque dans la technique. Et si on rajoute le fait que les enfants du village jouent également leur propre rôle, nous pouvons affirmer que ce film est authentique dans la technique et jusque dans le casting. Le film est en totale cohérence dans tous les sens du terme avec l'esprit bhoutanais. Je terminerai en présentant rapidement le réalisateur puisque son parcours peut être éclairant pour la compréhension et la réalisation du film. Pao Chongling Dorji est un Bhoutanais donc de 38 ans qui, après avoir étudié la politique et la gouvernance, a suivi une formation pour être moine avant de se tourner vers le cinéma. Son objectif était de créer un film qui parle de la quête du bonheur. Et c'est donc son premier long métrage. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur ce film, mais le mieux reste d'avoir la curiosité de le voir. L'école du bout du monde, c'est un film à voir en famille, un film qui permet de s'ouvrir au monde. C'est 2 heures de dépaysement total, de paysages magnifiques, un voyage initiatique, intelligent, sobre, émouvant et drôle. Et le film est à retrouver donc en DVD à la médiathèque d'Agetmont. Bon voyage.
Tout est dit. Merci beaucoup, Sandrine. On va passer à une petite pause musicale. Juste après la pause musicale, on va passer à l'apéro. Et ouais, à 14h30, comme ça, on fait l'apéro. Oh, oh. DJ Widdy. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, bébé, j'aime l'apéro. Oh, bébé, j'aime l'apéro. Oh bébé j'aime l'apéro, oh bébé j'aime l'apéro. Ouais j'aime boire des pilles, boire des pilles, boire des pots. Passe-moi ce verre car bébé j'aime l'apéro. Devant toi c'est le jeune son nom et Gérard Bast. Demande à la barmaid d'une pinte de Brooklyn froide. Bouteille couleur pisque j'adore. Bol de cacahuètes, bretzel ou popcorn. J'commande une planche de charcut. Ou éventuellement du frometon pour mes végos ou mes muslims. Tease non-stop, partage la note. Je relance de 20 balles, je remplis la cagnotte. Je suis ce gros MC qui se fracasse la tête. Tu sais le céréal killer pro de la fête. La prod c'est oui, team, flow c'est bim. Ouais ça fait un bail que je suis addicté. Et je sais
j'aime l'apéro. Oh bébé, j'aime l'apéro. Oh bébé, j'aime l'apéro. Oh bébé, j'aime l'apéro.
Je bois pour oublier que j'ai oublié d'avoir bu. Je suis un fourmilier, la bière est ma pâture. Ni Dieu ni maître sauf maître Canter. Pas besoin qu'on me déshydrate-toi. Je mange que des merdes qui donnent le cancer. Je bois que des trucs qui filent la chasse. Je vais être dans le Guinness Book pour le record de Guinness Bu. Et puis j'irai vider le tout sur ta face de vilaine pute. Tu bois les coups sur le banc de touche, même pas besoin de viser le but. Si Amsterdam meurt dans la bouche, c'est que normalement je vais te pisser dessus. On n'est pas de ceux qui boivent du Spritz en train d'écouter Moby. Tout le temps une canette dans la poigne, j'ai les mains d'un Playmobil. Les amuse-gueules dans la mienne, je donne rien pour les rapaces. DB, DJ, Widim, sans nom et Gérard.
Oh, plus jamais à zéro. Bien sûr qu'on va taper le ram. Oh bébé, j'aime l'apéro. Jamais je bois d'apéral.
Jamais.
Oh bébé, j'aime l'apéro. Oh bébé, j'aime l'apéro. Oh bébé, j'aime l'apéro. Oh bébé, j'aime l'apéro.
Vous êtes sur Radio MDM 93.8 avec l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan.
Et voilà, et donc on est avec Patricia pour l'apéro. Pourquoi je dis l'apéro ? Parce que vous allez nous présenter un paquet. Alors, vous allez nous présenter
un paquet de chips. Un vrai paquet de chips dans lequel il y a des chips, des cartes et une règle de jeu. Donc, paquet de chips, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Et c'est sorti chez Mixlore en 2022. Donc, c'est vrai qu'utiliser un paquet de chips comme contenant de jeu et sac de tirage, c'est assez rigolo. Et c'est l'ingénieuse idée qu'a eu Théo Rivière et son comparse Mathieu Aubert. Dans ce jeu, on va devoir parier sur les couleurs de morceaux de pommes de terre grillées que l'on va sortir du sac. Donc voilà, c'est un jeu de pari, de prise de risque et surtout un jeu d'ambiance. Chaque joueur va débuter avec des cartes objectifs. Et ces cartes objectifs, en fait, elles indiquent chacune une configuration particulière de chips et une valeur de points. Je vous explique rapidement. Par exemple, je vous montre une carte qui va valoir 4 points. Si on arrive à tirer du paquet de chips, 3 pommes de terre jaunes et 3 pommes de terre orange. Alors, plus difficile, mais 100 points quand même, si on arrive à tirer autant de pommes de terre vertes que de pommes de terre jaunes. Et encore plus difficile, pour 200 points s'il vous plaît, il faut que vous me sortiez 7 pommes de terre jaunes, sachant que dans le jeu, il y a en tout et pour tout 7 pommes de terre jaunes. Donc en fait, c'est un jeu de déduction. Donc, on va se voir attribuer 6 cartes et il va y avoir plusieurs tirages. Un premier tirage où on va devoir piocher 5 chips complètement au hasard. 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà, avec ce tirage, je peux défausser des objectifs. Je me dis, bah, celui-là, carrément, bah, déjà le 200, je crois que je peux l'éliminer. Jamais de la vie, j'aurai, d'accord. Donc j'en enlève 2. Puis un second tirage où on va mettre 4 pommes de terre chips. Et là, on va devoir se défausser d'un autre objectif qui nous paraît irréalisable. Puis un troisième tirage où on va tirer 3 chips. Et là, on va devoir, de notre main, ne garder que 2 objectifs. Les objectifs finaux. Et ces 2 objectifs, il va falloir en mettre 1 sur notre main gauche, ce sera du négatif, et 1 sur notre main droite, ce sera du positif. En gros, il va falloir dire, je suis sûr de moi, donc côté droit, je suis sûr de moi de pouvoir réaliser cet objectif, qui va me donner des points, et je suis sûr de moi aussi que cet objectif que je mets sur ma gauche ne sera jamais réalisable. Ok ? Et enfin, le dernier tirage, c'est une pomme de terre. Ça peut tout faire changer. Et là, on regarde et on fait le décompte. Si mon objectif de droite est réussi, j'ai mes 25 points, auxquels j'ajoute les points qui sont de l'autre côté, si vraiment c'est réalisé aussi, mais je peux les enlever aussi. Je peux faire des points négatifs comme des points positifs. Voilà. Donc, tout le jeu se déroule comme ça en plusieurs manches. Donc après le dernier tirage et le décompte, eh bien, on recommence, on fait un autre tirage, etc. etc. Voilà, alors paquet de chips, il fait vraiment, vraiment dans l'accessible. Les règles, elles ne sont pas compliquées du tout. Le jeu se dégaine ultra rapidement, c'est des parties très courtes. Ça permet de toucher un large public.
Et on peut y jouer à combien de personnes?
Alors, déjà, on peut le faire tout seul, puisque ça peut être, voilà, ça peut être en mode réussite, on va dire. Voilà. Et puis sinon, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs à peu près. Voilà. Mais il faut venir l'essayer à Saint-Sevé. Je vous invite à venir le voir. Et puis j'ai envie de dire à Marie, parce qu'elle nous a fait une petite confidence, que ce jeu plein de sel, attention, il peut te rendre accro.
Et Zeste de Culture, ben c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain avec encore plein d'idées, lectures. Certainement, on aura de la jeunesse, des jeux, des livres. Et Radio MDM s'associe aux médiathèques de Chalosse-sur-Saône pour vous souhaiter une très bonne année encore une fois.
Retrouvez toutes nos actus sur le site www.chalosse-sur-saône.fr et sur notre page Facebook. Zeste de Culture, l'émission des médiathèques Chalosse-sur-Saône. Nous vous disons à très bientôt sur les ondes de Radio MDM.
Vous l'avez lu ?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur ?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour !
Je peux en prendre combien ?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire ?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu ?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez ?
Vous pouvez me le prolonger ?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors ?